Bonjour. Aujourd'hui et demain, les ministres de la Défense vont se réunir ici à Bruxelles pour préparer notre sommet qui aura lieu au mois de juillet. Nous démarrons par une réunion du groupe des plans nucléaires. Cela fait partie de nos consultations pour faire en sorte d'avoir des forces nucléaires de l'OTAN qui soient sûres, sécurisées et efficaces. D'autre part, nous prendrons des décisions pour moderniser la structure de commandement de l'OTAN. Nous devrions approuver la mise sur pied de deux nouveaux commandements, un commandement pour l'Atlantique et un commandement de soutien pour la mobilité militaire en Europe. Il y aura également un nouveau centre de cyberopération. Puis nous traiterons la dépense de défense et le partage du fardeau entre alliés. Pour assurer la sécurité de nos pays, il nous faut plus de dépenses de défense, il faut des investissements pour des capacités clés et il faut des forces pour les missions et opérations de l'OTAN. En d'autres termes, il nous faut plus de ressources financières, de capacités et de contributions. L'an passé, les alliés ont décidé qu'ils feraient des rapports annuels sur leur manière de mettre à disposition ces trois éléments. Et aujourd'hui, nous allons examiner tout ce qui a été réalisé à ce jour. Alors, les rapports confirment que nous avons beaucoup avancé, cela étant, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Ce soir, nous tiendrons une réunion avec la haute représentante, vice-présidente Madame Federica Mogherini, ainsi qu'avec nos collègues finlandais et suédois. Et ensemble, nous parlerons des efforts de l'UE en matière de défense et nous parlerons également de la coopération OTAN-UE. En effet, ces efforts, s'ils sont menés à bon escient, peuvent contribuer à un meilleur partage du fardeau entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Demain, nous aborderons les avancées en matière de dissuasion et de défense. Nous parlerons également du rôle de l'OTAN en matière de projection de la stabilité et dans la lutte contre le terrorisme. L'OTAN contribue à la coalition internationale contre Daesh par le biais de vols de surveillance AWACS et par le biais d'entraînement et de formation de forces irakiennes. La coalition a enregistré des avancées majeures en libérant la quasi-totalité du territoire qui était autrefois détenu par Daesh en Irak et en Syrie. Cela étant, Daesh continuera d'être une menace même lorsqu'ils ne détiendront pas de territoire, lorsqu'ils ne contrôleront plus de territoire. C'est la raison pour laquelle la formation et l'entraînement des forces irakiennes est essentiel. À la suite d'une demande de la part du gouvernement irakien et de la part de la coalition internationale, je pense que nous allons approuver le début de la planification d'une mission d'entraînement de l'OTAN en Irak. Cela permettra d'avoir une base plus solide s'agissant de notre présence dans ce pays. Nous aurons des procédures pour la génération de forces et pour le financement. Cela contribuera à la sécurité de l'Irak et à la nôtre. Sur ce, je suis disposé à répondre à vos questions. The Wall Street Journal. Monsieur le secrétaire général, les États-Unis ont fait part de leur projet budgétaire avec 1,7 milliard de dollars supplémentaires pour la défense européenne, ce qui fait qu'il y a au total 6,5 milliards environ pour l'initiative européenne des États-Unis. Est-ce que cela peut décourager finalement les Européens à l'heure de consentir des efforts en matière de défense? Comment est-ce qu'on peut veiller à ce que les Européens n'en profitent pas, n'en abusent pas? Réponse, eh bien, nous nous félicitons des décisions prises par les États-Unis en matière de renforcement de leurs efforts vis-à-vis du continent européen, que ce soit par le biais de moyens financiers, de contributions en ressources humaines également. Et ceci, en fait, constitue une incitation pour les Européens. Cela les encourage à en faire encore plus. Et c'est bien de cela dont il est question. Depuis 2014, nous avons pu voir que les États-Unis et les Européens ont augmenté leurs efforts. On a vu une présence américaine renforcée et en même temps, on a pu voir que les alliés européens ont renforcé leurs efforts. Investissement en matière de défense, budget de défense en termes réels. Il y a également eu un renforcement de leurs efforts avec un plus grand nombre de troupes pour la présence avancée, que ce soit dans les États baltes et en Pologne ou dans la partie sud-est de l'Alliance. Donc ces deux éléments vont de pair. La présence américaine va de pair avec le fait que les alliés européens en font plus pour leur propre défense. Sky, Monsieur le secrétaire général, j'aurais voulu savoir votre réaction par rapport à ce qui est dit dans la presse britannique quant au fait que le Royaume-Uni n'est pas à la hauteur de ses engagements en matière de dépenses de défense. Et d'autre part, pouvez-vous nous dire votre avis sur les poursuites judiciaires qui doivent être engagées contre les combattants de Daesh? Réponse, le Royaume-Uni respecte ses engagements en matière de dépenses de défense. Le Royaume-Uni consacre 2% et même plus de 2% de son PIB à la défense. Cela fait même plusieurs années que c'est le cas. Donc, le Royaume-Uni est un exemple en la matière. Alors, cette préconisation de 2%, elle a été approuvée en 2014, et ceci est en phase avec la manière dont on calcule les dépenses de défense. Il y a des méthodes bien établies pour ce faire, et cela permet de comparer les dépenses des différents pays. Et cette recommandation de 2%, ça a été fixé en phase conformément à la méthode qui avait été retenue à l'époque. Donc, il est incontestable que le Royaume-Uni s'en tient à ses engagements et dépense 2% de son PIB. Je m'en félicite. S'agissant des combattants étrangers, ils sont les auteurs d'actes criminels, d'actes de violence, et ils peuvent continuer à constituer une menace. C'est la raison pour laquelle je me félicite des efforts réalisés par des pays au sein de la coalition internationale contre Daesh pour voir comment traiter, entre guillemets, ces individus. Cela n'est pas une décision qui appartient à l'OTAN, c'est une décision qui appartient aux pays qui font partie de la coalition. Monsieur, j'aurais une question au sujet de l'Ukraine. Comment se fait-il que l'Ukraine ne fait pas partie officiellement des pays candidats? Réponse, l'OTAN et l'Ukraine ont un partenariat très fort. Nous fournissons un soutien politique, un soutien pratique très fort à l'Ukraine et les alliés fournissent également un soutien bilatéral. Et nous nous félicitons de tout cela. Nous allons continuer à renforcer notre partenariat, nous allons continuer à travailler avec les Ukrainiens. À présent, nous mettons l'accent sur les réformes. Et à cet égard, je me félicite du fait que le gouvernement ukrainien soit en train de mettre l'accent sur cet aspect-là. Et sur la base des avancées qui seront réalisées, on pourra évaluer les perspectives de ce pays en tant que candidat à l'adhésion. Monsieur le secrétaire général, que répondez-vous à ceux qui disent que l'OTAN revient à une réflexion en termes de bloc et qu'on est en train de relancer la course aux armements en Europe? Réponse, l'alliance ou l'OTAN est une alliance défensive. Nos mesures sont proportionnées, sont mesurées. Et pendant bon nombre d'années après la guerre froide, les alliés ont réduit leurs dépenses de défense. Ils ont réduit leur capacité militaire et nous avons essayer de mettre sur pied un partenariat avec la Russie. Ensuite, ce que l'on a pu voir, notamment à partir de 2014, avec l'annexion illégale de la Crimée, avec la déstabilisation réalisée par la Russie dans la partie est de l'Ukraine, on a pu voir une situation où la Russie cherchait à s'affirmer et le faisait en violant le droit international. Alors, nous réagissons de manière proportionnée et mesurée. Nous avons une présence militaire accrue dans la partie orientale. Et d'ailleurs, l'Allemagne joue ce rôle, par exemple, en menant un groupement tactique en Lituanie. Et en même temps, on cherche à mettre sur pied une meilleure relation avec la Russie. Nous ne souhaitons pas d'une nouvelle guerre froide. Nous ne souhaitons pas une nouvelle course aux armements. C'est la raison pour laquelle on a cette approche en deux temps, dialogue et défense. Nous devons être fermes, nous devons être prévisibles et clairs, et en même temps, nous œuvrons en vue d'avoir une meilleure relation, un meilleur dialogue avec la Russie. Monsieur? Monsieur le secrétaire général, vous le savez, il y a des combats dans le nord de la Syrie, et la Turquie est évidemment un membre essentiel de l'OTAN. Alors, est-ce que vous allez aborder la situation actuelle dans vos réunions aujourd'hui avec le ministre de la Défense turc, avec le ministre de la Défense américain et d'autres. Ensuite, s'agissant de la coopération avec les forces armées irakiennes, est-ce que vous allez vous concentrer surtout sur les forces qui se situent dans la partie méridionale et centrale du pays, ou est-ce que vous allez également travailler avec la partie kurde? Réponse. Nous allons parler du rôle de l'OTAN en matière de lutte contre le terrorisme, et la contribution de l'OTAN revêt plusieurs formes. Nous sommes présents en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme. Nous faisons partie de la coalition internationale contre Daesh. Nous soutenons la coalition par le biais de vols de surveillance AWACS et également l'entraînement de forces en Irak. Et les alliés participent chacun à leur manière à cette coalition. Cela étant, l'OTAN n'est pas présente sur le terrain en Syrie du Nord. La Turquie a des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Il n'y a pas d'autre pays qui ait plus souffert que la Turquie d'attentats terroristes. Et en même temps, nous attendons de la Turquie qu'elle réagisse de manière proportionnée et mesurée. Alors, il y a des contacts entre les États-Unis et la Turquie par rapport à la situation dans le nord de la sécurité, dans le nord de la Syrie, pardon, mais comme je le disais, l'OTAN n'est pas présente sur le terrain. Cela étant, la Turquie a informé les alliés s'agissant de l'opération Rameau d'Olivier, et je pense que c'est un mécanisme qui va se poursuivre. Ensuite, s'agissant de l'entraînement et de la formation en Irak, eh bien, il y a déjà des activités de formation qui sont en cours. Ce qui est prévu, c'est que l'on lance la planification d'une mission de formation, voilà, qui permettra d'avoir des bases plus solides s'agissant de ces activités. Ça va nous permettre de renforcer nos efforts de ce type. Alors, pour l'instant, on est dans une phase de planification, donc il est encore délicat de dire quel est le type de mission et de formation qui pourrait avoir lieu, mais la requête, c'est d'avoir plus de formation pour professionnaliser les forces armées, pour les forces du gouvernement et pour les aider à mettre sur pied des centres de formation, des écoles, des académies pour leurs officiers. Il y a donc l'idée de former les formateurs. Mais ce que nous ferons en Irak se fera de toute manière en toute coordination avec le gouvernement. Question? Oui, une question au sujet de l'Allemagne. Quel peut être le rôle de l'Allemagne au sein de l'OTAN, notamment avec l'idée de stationner des troupes dans ce pays au sein d'un commandement qui n'a pas encore de nom? Et puis, il y a également les mesures financières de ce pays pour arriver aux 2%. Réponse? Nous nous félicitons du fait que l'Allemagne ait commencé à augmenter ses investissements en matière de défense. Moi, je suis politicien depuis bon nombre d'années et je sais que la plupart des dirigeants politiques veulent consacrer des moyens à la santé, les infrastructures, l'éducation, ces postes-là, donc plutôt que la défense. Et bon nombre de pays ont d'ailleurs réduit leurs dépenses de défense après la guerre froide, car les tensions devenaient moindres. Mais si on réduit les dépenses au moment où les tensions sont moindres, il faut être en mesure d'augmenter ces dépenses au moment où les tensions repartent à la hausse. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. On voit la violence, on voit les troubles en Irak et en Syrie. On voit également qu'il y a une Russie qui s'affirme de plus en plus. Et l'idée est d'avoir une OTAN forte, avec notamment un rôle important pour l'Allemagne à l'heure d'assurer une dissuasion et une défense crédible. Le but n'est pas de provoquer un conflit, mais au contraire de prévenir l'émergence d'un conflit. Donc, nous nous félicitons des efforts supplémentaires effectués par l'Allemagne pour ses forces armées. Nous nous félicitons également du fait que l'Allemagne participe à notre présence avancée rehaussée en menant un groupement tactique en Lituanie. Il y a également une présence allemande en Afghanistan, dans la mer Égée, en Méditerranée, où nous confrontons les défis qui existent dans cette partie-là du monde. Donc l'OTAN est présente dans bon nombre de zones et l'Allemagne y participe et je m'en félicite pleinement. Merci infiniment. Nous nous retrouvons pendant la conférence de presse de cette ministérielle. Merci bien.